Bonjour mes frères et bonjour mes sœurs. Que la paix de Dieu, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ ce matin soit le partage de nous tous. Comment allez-vous? Ça va? Vous avez passé une bonne nuit? D'accord? Eh bien, nous sommes heureux ce matin de nous retrouver dans la présence de Jésus. C'est toujours un bonheur immense pour moi lorsque l'occasion m'est donnée, comme ce matin, avec le peuple de Dieu que nous sommes, que vous êtes, de nous rassembler pour rendre le culte à notre Dieu. Alléluia. Dans le psaume 100, le psalmiste s'exclame ainsi, « Servez l'Éternel avec joie. » Est-ce que vous êtes joyeux ce matin? Béni soit Dieu. La joie du Seigneur est notre force. Certes, vont pas négliger le fait que comme enfants de Dieu, nous avons nos épreuves. Vous avez les vôtres. Même si on n'en a pas plusieurs, mais vous en avez au moins une. Une épreuve. Confronté à un monde hostile, à Dieu, à Jésus-Christ, qui gît sous la puissance des ténèbres, dont le prince qui gouverne déploie toutes sortes d'artifices pour que, s'il était possible, il nous arrête sur le chemin de la persévérance. Gloire à Dieu, mais le Saint-Esprit en nous nous propulse toujours de l'avant. Gloire à Dieu. Et comme il a été dit à David, par Ushka et Lagagit, dans le livre de Samuel, ne passe pas la nuit dans les plaines du désert, mais va plus loin, de peur que le roi et ceux qui sont avec lui ne soient exposés à mourir. Gloire à Dieu. Pourtant, il est roi. Il est établi par Dieu. C'est l'homme selon le cœur de Dieu, mais confronté à une situation dans sa propre maison où son fils Absalom s'est rebellé contre lui, ce qui a nécessité sa fuite. Mais Dieu a toujours un envoyé qui l'envoie au bon moment, pour donner sa pensée et sa parole et nous exhorter à toujours aller plus. Gloire à Dieu. Voilà. Eh bien, nous allons maintenant, mes amis, nous occuper de notre âme. Et en nous occupant de notre âme, cela va de soi, nous allons ouvrir nos Bibles. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons nous arrêter ce matin sur une parole qui est sortie de la bouche du Maître, de la bouche de Jésus, notre Seigneur, celui que nous avons chanté, celui qui est au milieu de nous de par sa merveilleuse promesse, qui à chaque fois que nous nous rassemblons trouve son accomplissement. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et à chaque fois, frères et sœurs en Christ, que notre Seigneur permet que son peuple soit rassemblé, il a toujours une parole pour donner à ses enfants. En sa qualité de notre maître, notre roi, notre seigneur et sauveur, notre libérateur, notre rocher, notre appui, notre abri, notre ami, notre frère, notre roi et notre Dieu, en un mot, saint dans tout cela, disant notre tout. Alléluia. Il a toujours ce qu'il faut pour pouvoir faire du bien à nos âmes. La raison, c'est qu'il connaît particulièrement chacune de nos vies, nos attentes, nos besoins, nos combats, nos luttes, nos chutes, béni soit Dieu, nos relèvements, et tout ce qui sera utile pour notre avancement spirituel, pour avancer sur le chemin de la persévérance avec le cap toujours le même, les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Et ce matin, le Saint-Esprit nous le fait contempler, particulièrement dans l'accomplissement de cette parole prononcée par le psalmiste dans le psaume 45, où, inspiré par le Saint-Esprit, il déclare ceci, « Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. » Alors je dis, mon œuvre est pour le roi. Je voudrais que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme, et la grâce est répandue sur tes lèvres. Et dans son ministère, lorsque nous voyons Jésus agir, Jésus en action, il y avait cette particularité qui fait que lorsqu'on regardait Jésus, lorsqu'on le voyait, lorsqu'on l'écoutait, de sa bouche sortaient premièrement des paroles dites à propos. Des paroles dites à propos qui avaient cette particularité que nous pourrions définir en lisant l'Écriture ou en écoutant Jésus dans certaines situations plus ou moins difficiles, quelquefois critiques, même des fois douloureuses. Jésus avait cette parole dite à propos où il disait à celui qui était frappé par le malheur, ne crains point. Alléluia. Ne crains point. Et quelquefois, il ajoutait, mais crois seulement. Cela veut dire que la parole dite à propos sortant de la bouche de Jésus était toujours suivie des faits. Pour secourir, pour libérer, pour relever, pour délivrer, pour briser le joug de Satan qui malheureusement pesait sous le cou de certaines victimes. Et à point que Jésus avait agi, Dieu était glorifié, le peuple acclamait celui qui avait été l'instrument dans la main du Père, c'est-à-dire Jésus, et celui qui avait reçu les bienfaits était transformé, libéré et pouvait maintenant reprendre la route. Des fois, certains suivaient Jésus, d'autres quelquefois disaient, voulant suivre Jésus, mais Jésus le dit, non, tu me suis pas, mais tu retournes dans ta maison, dans ta patrie, et tu seras servi désormais de témoin pour dire tout ce que le Seigneur t'a fait, et tu, il rajoute, et combien il a eu pitié de toi. Amen. Et puis, dans la bouche de Jésus sortait quelquefois avec des paroles dites à propos, comme je viens de vous l'expliquer. Des fois, c'était des paroles de sagesse. Lorsque la parole de sagesse sortait de la bouche de Jésus, elle avait une particularité, c'est qu'elle se dirigeait et touchait littéralement la conscience de celui qui l'avait prononcée. Et cette parole de sagesse, particulièrement dans l'évangile de Jean, chapitre 8, elle sort de la bouche de Jésus, mais son effet va être immédiat. Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Puis, substituant son regard au leur, les gens religieux, Jésus se rebaisse et puis voici qu'il continue à écrire sur la terre. La Bible nous dit que, après avoir entendu cette parole de la bouche de Jésus, tous, repris dans leur conscience. Pourtant, ils avaient amené la femme surprise en flagrant délit d'adultère et leur démarche était autant pour pouvoir faire condamner la femme, mais aussi ils avaient en vue de surprendre Jésus en flagrant délit de transgresseur de la loi de Moïse. Alors si vous pensez surprendre Jésus en flagrant délit de transgresseur, ce jour-là, excusez-moi du terme, hein, c'est pas évangélique, hein, ils sont tombés sur un os. Mais oui, parce que quand vous pensez surprendre Jésus, c'est vous qui êtes déjà surpris. Parce que après que Jésus leur eut donné la parole, leur conscience leur a montré que eux qui voulaient accuser cette femme, surprise en adultère, eux-mêmes étaient des transgresseurs de la loi. Ils venaient de commettre deux délits. Le premier délit, la loi de Moïse disait, s'il y a constat d'adultère, l'homme et la femme seront lapidés. Alors ils ont emmené la femme. Et vous remarquerez que Jésus n'a pas dit où est l'homme. Hein? Premier délit, ils ont fait rentrer une femme surprise en adultère, ils l'ont emmenée dans le temple. Deuxièmement, ils n'ont pas amené l'homme. Parce que la loi disait que si cette femme était en adultère, elle était impure. Donc, il fallait pas faire entrer dans le temple quelqu'un considéré comme impur. Voilà pourquoi la parole de Jésus a déshabillé leur conscience. Tous, depuis le plus âgé jusqu'au dernier, se sont retirés. Voulez-vous une deuxième parole de sagesse prononcée par la bouche de Jésus? Ce sont les détracteurs appelés les sadducéens qui viennent. Sadducéens, ils ont une doctrine qui prétend qu'il n'y a pas de résurrection des justes. Puis ils vont faire remarquer à Jésus, c'est un propos, est-il permis de payer le tribut de César ou non? Alors Jésus les a écoutés parce qu'ils sont venus d'abord avec de la flatterie. Et lorsque le Seigneur a demandé, donnez-moi un denier. Le denier, c'est la pièce qui est en vigueur du temps de Jésus, hein. Donc, le denier avait une effigie, un visage et une inscription. Il leur a posé la question. De qui sont cette effigie et cette inscription? Qu'ont-ils répondu? De César. Alors Jésus leur a dit, parole de sagesse, rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à lui. Vous remarquez, Jésus n'a pas fait de discours, hein. Mais ils ont compris ce jour-là que celui à qui il s'adressait n'était pas n'importe qui. Parce que Jésus, quand il s'adresse à quelqu'un, la réponse qu'il peut donner à une question qui a été posée va toucher plus l'esprit par lequel est animé celui qui pose la question que la question elle-même. C'est-à-dire Jésus fait un bouleversement à l'intérieur. Alors, parole dite à propos, vous avez saisi? Parole de sagesse, mais il y a une troisième. C'est la parole de connaissance, qui, lorsque le Seigneur était en action, qui le manifestait, avait pour but d'amener celui qui le recevait à voir plus loin que l'aspect physique, Jésus, c'est l'aspect extérieur, mais voyant qu'au travers de Jésus, c'était littéralement l'incarnation vivante de la pensée, de la parole et de l'action de Dieu parmi les hommes. Vous suivez toujours? Alors, voyons une parole de connaissance que Jésus va prononcer. Retrouvons Jésus dans l'évangile de Jean. J'ai pas dit de chercher dans vos Bibles. Je vous explique simplement quelque chose. On va revenir nos Bibles tout à l'heure. Nous sommes justement en train de mettre en place au travers de ses pensées, ce que Dieu veut que nous puissions comprendre concernant Jésus dans les paroles pleines de charme qu'il prononçait. Alors voyons maintenant. La Bible nous dit que dans l'évangile de Jean, il y a un dialogue entre Philippe et André. Ce dialogue est ceci, nous avons rencontré Jésus, celui de qui Moïse a parlé dans la loi, et de qui les prophètes ont rendu témoignage, Jésus de Nazareth. Et lorsque M. Nathanaël entend cela, sa première réaction est de dire, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Jésus, en tant que fils de Dieu et Dieu lui-même, a entendu ce que vient de déclarer Nathanaël. Il ne peut rien venir de Nazareth de bon. Mais quand Jésus le voit venir, Jésus dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Et sur la déclaration de Jésus, voici la déclaration de Nathanaël maintenant, avant, voici la déclaration que fait Jésus, donne une parole concernant Nathanaël. Mais Nathanaël, après que Jésus lui dit ces paroles, il dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Cela veut dire que la parole que Jésus donne concernant Nathanaël va contrecarrer autant ses pensées que sa parole et sa déclaration. Ça veut dire que Jésus va surmonter ce qui était dans le cœur de Nathanaël comme étant l'orgueil de la race pour lui manifester l'amour de Dieu et lui montrer que quand il était sous le figuier, il a été vu. Ça veut dire que c'est une parole de connaissance que Jésus dit à son égard. Alors, quand le Seigneur lui parle, qu'est-ce qui lui fait comprendre à ce moment-là? Désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Cela veut dire Jésus se met en évidence comme étant le garant le garant des alliances que Dieu conclut avec les hommes, surtout la nouvelle alliance qui prend son effet en sa merveilleuse personne. Que Dieu soit béni. Puis dans la Bible, il y en a de nombreuses paroles de connaissance qui sont données, mais béni soit Dieu, nous allons conclure là pour ce qui est sorti de la bouche de Jésus. Regardez avec moi maintenant, frères et sœurs, ce que notre Seigneur dit ou rapporte, ou ce que la Bible rapporte le concernant, dans l'évangile de Luc. Nous allons regarder au chapitre, évangile de Luc, le chapitre 9, versets 10 à 11. Évangile de Luc, chapitre 9, au verset 10 à 11. Les apôtres, étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira, dites avec moi, à l'écart. Du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Verset 11. Les foules l'ayant su, le suivirent. Et nous lisons après. Jésus les accueillit. Et vous remarquerez qu'il n'est pas dit la foule. Il n'est pas dit la foule, mais la Bible nous dit, lisez, les foules. Donc, on peut comprendre qu'il y avait de nombreuses personnes. Si nous ne connaissons pas le nombre, mais nous pouvons définir que dans ces foules, dans les foules, eh bien, il y avait toutes sortes de situations vécues. Il y avait dans la foule certainement des gens à problème. Il y avait aussi dans la foule toutes sortes de niveaux de vie, de niveau social. Toutes sortes de niveaux de vie, peut-être sur le plan professionnel, peut-être sur le plan personnel. Il y avait aussi dans cette foule, dans ces foules, toutes sortes de niveaux de connaissances. Parce que comme une foule, dans une foule, il y a toutes sortes de situations, toutes sortes de niveaux sociaux, toutes sortes de personnages. Peut-être que dans ces foules, il y avait aussi toutes sortes de niveaux intellectuels, que sais-je. Mais ce que nous pouvons remarquer, et nous l'avons lu, Jésus les accueillit tous. Alors, si je fais le rapprochement entre ces foules et l'Église ce matin, eh bien, cela veut dire que Dieu, dirigeant ses foules vers Jésus qui les accueillait, avait déjà en prévision que dans ses foules, il tirerait des individualités, hommes, femmes, de tout niveau social, de toute origine, de tout niveau intellectuel, de tout niveau de connaissance, mais pour les faire rentrer dans la bergerie céleste. Gloire à Dieu, à qui Dieu nous a-t-il attirés? Dites-moi s'il vous plaît. Vous n'êtes pas très convaincant, hein? Je repose la question, à qui Dieu nous a-t-il attirés? Eh bien, à Jésus. C'est à Jésus que Dieu nous a attirés. Lorsque l'évangile nous a été prêché et que le Saint-Esprit entrant en action nous a convaincus que nous étions des pécheurs, Dieu nous a montré en même temps, en notre qualité de pécheurs, ce que nous serions en droit d'attendre si nous quittions la terre dans cette position-là, c'est-à-dire le jugement après la résurrection des impies, la condamnation qui s'en suivrait, et puis la perdition éternelle où nous serions amenés dans ce lieu qu'on appelle l'étang ardent de feu, lieu où le feu ne s'éteint point et où le ver ne meurt point. Lieu où se trouve celui qui, dans l'évangile de Luc, a été mentionné comme étant le mauvais riche. Lieu où, malheureusement, je le dis ce matin, peut-être avec une pointe de souffrance, où se trouvent certains membres de ma famille. Mais béni soit Dieu, et vous serez d'accord de glorifier le Seigneur avec moi ce matin, lieu d'où nous avons été gardés et préservés. Parce qu'en marge de cela, quand l'évangile a été prêché, Dieu nous a montré qu'il y avait une destination qui était désormais réservée à ceux qui se repentaient, qui se convertissaient, qui expérimentaient la nouvelle naissance et qui acceptaient Jésus comme sauveur en se faisant baptiser par immersion, étant placés sur le chemin de la persévérance, et ce, non pas pour 10 ans ni pour 20 ans, mais jusqu'à la fin. Nous étions au rang de ceux qui, comme futurs candidats pour le ciel, après avoir reçu le Saint-Esprit dans nos cœurs, nous avons reçu non seulement ce qu'il a mis en nous, la puissance d'une vie impérissable, mais en même temps nous avons été marqués du sceau divin. Amen. Et vous savez que dans les Saintes Écritures, le sceau est quelque chose d'important qui nous donne comme une garantie divine. Si vous avez un document administratif de conséquence qui vous est demandé, ce document ne peut avoir de valeur que s'il porte le sceau de l'organisme qui vous l'a délivré et qui l'a rédigé. Eh bien, le Saint-Esprit nous a marqué du sceau de Dieu ce matin. Alléluia. Le sceau nous donne une première garantie. La première garantie que nous donne le sceau marque la conclusion du contrat. Dieu a mis le sceau de la nouvelle alliance et il a marqué notre âme du sceau de Dieu, du sceau divin par la résurrection de Jésus d'entre les morts. Deuxièmement, le sceau nous montre que désormais, étant marqué du sceau divin, nous possédons deuxièmement une deuxième garantie. C'est que le sceau nous parle de la conclusion du contrat. Le contrat a été conclu. Le contrat de la nouvelle alliance a été conclu. Cela veut dire que si Dieu est intervenu par un serment, le Saint-Esprit prend soin de nous expliquer dans l'Épître aux Hébreux que le serment est une garantie qui met fin à toute discussion. Et si Dieu a mis le sceau, Dieu n'a pas besoin lui-même de serment, mais il a fait le serment pour les hommes. De sorte qu'après avoir agi, nous voyons que désormais, il y a comme quelque chose qui nous donne deux garanties irréfutables. La première, c'est la mort de Jésus-Christ qui nous garantit notre mort avec lui, c'est-à-dire le pardon de nos péchés et puis le salut de notre âme. Et deuxièmement, la résurrection de Jésus nous confère une deuxième garantie, notre justification auprès du Père et notre future résurrection quand le temps sera venu pour nous de quitter la terre. As-tu cela dans ton cœur ce matin? Ce n'est pas quelque chose que nous fabriquons. Ce n'est pas non plus du préfabriqué. C'est ce que le Saint-Esprit met en nous de la part de Dieu puisque nous en avons fait l'expérience. Donc, Jésus attirait la foule. Et Jésus, après avoir attiré la foule, eh bien, montrant que par là, le dessein du Père continuait à s'accomplir en lui. Car en attirant, en accueillant la foule, Jésus montrait non seulement que Dieu ne fait exception de personne, comme ce matin, mais il montrait aussi ce que Paul dira à Timothée plus tard. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Car il y a un seul Dieu, mais aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et ce médiateur, c'est Jésus-Christ, homme, qui s'est livré lui-même en rançon pour tous. En rançon pour tous. Après avoir tout enduré, tout supporté, il a tout accompli. Il s'est donné en rançon pour tous. Je l'avais dit que désormais, le plan de Dieu se déroule. Et là où l'homme est encroûté sous la puissance du péché, lorsqu'il se repent de ses péchés devant Dieu, reconnaissant ses erreurs, ses égarements, ses fautes, là où le jugement devait tomber sur lui, il obtient en marge de cela grâce pour grâce. Car là où le péché a abondé, la grâce a surabondé avec la foi en Jésus-Christ, que Dieu soit béni. Jésus les accueillait tous. Et puis après avoir accueilli la foule, la deuxième pensée qui tout de suite s'enchaîne, et lisez l'écriture, le verset 11, il les accueillait, et après les avoir accueillis, que fait-il? Et il leur parlait. Alléluia. Mais il ne parlait pas de la pluie et du beau temps, hein. Il ne leur parlait pas de X ou de Y. Il leur parlait, dites avec moi, du? Alléluia. Ah, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Il les accueille. Et deuxièmement, voici que le Seigneur se met à leur parler du royaume de Dieu. Qui? À qui s'adresse-t-il? Les foules. Cela veut dire que c'était des gens qui étaient ignorants des choses célestes. Mais non seulement Jésus les accueille, et Jésus leur parle du royaume de Dieu. Donc, dans ce royaume, qui dit royaume? Expliquez-moi. S'il y a royaume, ça veut dire qu'il y a un roi. Et s'il y a un roi, il y a des sujets de sa majesté. Alléluia. Eh bien, nous sommes en plein sur le terrain où, quand Jésus commence son ministère dans l'évangile de Matthieu, du chapitre 5 au chapitre 7, Jésus va mettre en évidence non seulement les traits de caractère que possèdent ceux qui sont devenus ou sont appelés à devenir membres de ce royaume, mais il va mettre aussi en évidence les traits de caractère que posséderont ses futurs disciples ou ceux qui sont devenus ses disciples. Vous voyez qu'il commence dans ce qu'on appelle les béatitudes, avec un mot. Dites avec moi. Heureux. Heureux. Non pas le sketch de monsieur Jean Reno, c'est pas Jean Reno. Fernand Reno. Monsieur Fernand Reno a fait un sketch, il appelle heureux, mais c'est pas la même chose, c'est pas le même bonheur, c'est pas la même source. Parce que monsieur Fernand Reno, aussi heureux a-t-il pu être aujourd'hui? Où est-il? S'il n'a pas accepté Jésus comme sauveur, il est dans l'un. Alors, il est dans le séjour des morts. Il n'est plus heureux, là. C'est fini. Mais la différence entre monsieur Fernand Reno et nous et toi, qui sommes devenus enfants de Dieu, même lorsque nous serons quittés la terre, ce bonheur continuera à se manifester. C'est un bonheur éternel qui se traduira dans le ciel par le mot félicité. Alléluia. Il en parlait du royaume de Dieu. Et quand je regarde un petit peu quelques éléments dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, 6 et 7, nous allons prendre quelques points pour voir comment Jésus, dans ce qu'on appelait communément le sermon sur la montagne, donne quelques particularités qui ne sont pas du tout négligeables ce matin et que nous allons regarder. Oh, on ne va pas prendre le tout, mais juste quelques paroles. sortis de la bouche de Jésus dans le sermon sur la montagne. Par exemple, dans Matthieu 5, nous voyons Jésus déclarer au verset 17, Matthieu 5, 17, toujours dans le sermon sur la montagne, hein, il déclare, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, mais je suis venu non pour abolir, mais pour, frères et sœurs en Christ, nous sommes confrontés à des grandes foules. Et ces grandes foules arrivent dans la finalité de la loi. La loi de Moïse arrive dans la fin de son économie. Mais ils y sont toujours attachés. Et la loi fonctionne avec des particularités, des choses qui sont dures à pratiquer, à réaliser. Et même si vous essayez de faire du mieux que vous pouviez pour pouvoir, eh bien, pratiquer la loi devant Dieu pour lui montrer votre piété, mais il y avait malheureusement une tare qui disait que si vous transgressez l'un des commandements de la loi, vous vous retrouvez passible de tous les autres. Parce que la loi dans son ancienne économie, qu'a-t-elle fait? Elle a libéré littéralement la puissance du péché. Et en même temps, elle a fait tomber la condamnation sur le transgresseur. La loi a été donnée par Moïse, avec toutes ses prescriptions, toutes les difficultés qu'on pouvait y rencontrer. Dans les Saintes Écritures, vous savez, il y a un métal qui définit la loi. Si vous prenez le pectoral du sacrificateur, il y avait plusieurs rangées de plusieurs pierres. Mais dans la liste des pierres, sur le pectoral du sacrificateur, il y avait un endroit où était placé en sachet le diamant. Mais le diamant, c'est ce que représente la loi. Et laissez-moi vous dire que c'est une pierre qui est particulière. La pointe de diamant a cette particularité, c'est elle seule qui peut rayer l'or. La loi est rigide. Elle est intransigeante. Elle coupe. Elle dégage. Et l'homme est incapable, même avec tout ce qu'il pourrait déployer comme énergie religieuse et personnelle, de satisfaire aux exigences de la justice de Dieu. Mais Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu pour accomplir la loi. Ça veut dire que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Ça veut dire que désormais, je vais aller jusqu'à la croix du calvaire. Ma vie sera retranchée. Mon sang sera versé. Mais Dieu sera satisfait lorsqu'un innocent payera pour les coupables. L'innocent, c'est Jésus-Christ. Le coupable, c'est la foule, la grande foule dans laquelle nous faisions partie ce matin. Mais béni soit Dieu, là où nos péchés avaient abondé, la grâce de Dieu a surabondé avec la foi en Jésus-Christ, si bien que ce matin, sur la base d'une œuvre de rédemption parfaitement accomplie par Jésus, nous sommes épargnés du jugement et de la condamnation. Béni soit Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Alléluia. Il accueillait la grande foule, les foules. Mais après, il les enseignait. Regardez encore notre enseignement découlant de la bouche de Jésus dans le sermon sur la montagne qui n'est pas du tout négligeable. J'ai noté, c'est toujours au chapitre que nous avons vu. Hein. Regardez le verset 21. On a vu le verset 17 maintenant. Regardez Matthieu 5, 21. Même verset 20. Voici ce que déclare Jésus. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, dites avec moi, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Plus haut, nous avons vu qu'il leur a parlé du royaume des cieux, du royaume de Dieu. Mais là, nous voyons qu'il parle du royaume des cieux. Donc, quelle différence entre royaume de Dieu et royaume des cieux? Enfin, il n'y a pas une grande différence. C'est-à-dire, ça va prendre une petite variante par rapport à l'endroit où cela est situé. Parce que l'expression « royaume de Dieu » définirait en quelque sorte la sphère où Dieu agit est mis en évidence ce qui concerne les choses d'en haut. Ça veut dire que quand nous avons cru pour le salut, Dieu nous a enlevé de la sphère où nous étions auparavant dans l'ignorance et nous a fait rentrer dans la sphère où il agit dans nos vies par le Saint-Esprit. On n'est pas été enlevé du monde. Nous sommes dans le même lieu. Mais nous sommes animés par une autre énergie qui est l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs et dans nos vies, qui fait que ce matin, frères et sœurs en Christ, eh bien, nous suivons avec Jésus-Christ, nous marchons à contre-courant de l'Esprit qui gouverne le monde. Est-ce que c'est votre cas ce matin? Nous avons des yeux, nous voyons. Nous avons des oreilles, nous entendons. Mais ce n'est pas le monde qui m'influence. Et quelquefois, quand j'entends certaines choses dans le monde, qui se fait ou qui se dit, mais j'écoute, mais je suis sans réaction. Parce que, frères et sœurs en Christ, plus ça va aller, plus nos yeux verront des choses impensables et inimaginables qui seraient à définir comme étant abominables. Et au sein de tout ce que nos yeux voient, Dieu nous laisse là. Pourquoi? Il faut que nous brillions comme des lumières dans ce monde de ténèbres. Il faut que nous restions comme étant le sel pour la terre. Il faut que nous demeurions comme étant la lumière pour ceux qui sont autour de nous et pour que nous puissions être comme disciples de Jésus, comme des témoins de la vérité. Alléluia. Oui, là où Dieu me place, là où je suis, là où je travaille, j'ai une mission à remplir. Je suis pas là pour cacher la lampe de l'évangile. Non, il faut qu'elle brille dans un lieu obscur. L'apôtre Pierre dira qu'il se faisait comme un devoir de former les chrétiens de l'église primitive comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Et puis après, il va parler de la lampe qui est comme une lampe prophétique et annoncer le retour de Jésus. Amen. Plus tard, le Seigneur dira à ses disciples, toujours dans le même sermon sur la montagne, ta lampe, ton œil est la lampe de ton corps. Si ton œil est en bon état, alors tout ton corps est dans la lumière. Mais si ton œil est en mauvais état, alors tout ton corps est dans les ténèbres. C'est difficile à comprendre, à supporter ça. Alors ce matin, quel est l'état de mon œil? Je ne parle pas de mes yeux physiques, parce que c'est les yeux physiques pour que je lise. J'ai besoin de mes lunettes. Là, ça va. Mais si j'ai pas les lunettes, je vais faire ça. Mais quand j'ai les lunettes, ça va. Mais pour les yeux intérieurs sont pour m'amener à discerner. Au discernement spirituel qui est tellement important dans ce monde de ténèbres. Ou si je suis pas un enfant de Dieu avisé, je risque d'avaler des couleuvres, accepter le mensonge pour la vérité, accepter l'intolérable et croire que c'est tolérable. Et hier, on a un petit peu soulevé le bois de ce voile concernant ce qui est dit par certaines personnes dans les autorités et qui même est mise en évidence par des lois. Mais moi, ce qui est important pour moi, comme on l'a bien compris hier, faut pas mélanger ce qui est de l'aspect public et de l'aspect privé de l'Église de Jésus-Christ. Mais quand moi, je pasteur, je prêche et que Dieu me donne une parole concernant certains aspects de notre société, vous savez ce que je fais? Vous savez ce que ça veut dire? Je me couvre de l'écriture. De sorte que personne ne peut dire, pasteur Gentil a dit, l'écriture. Si Dieu l'a dit, moi je le dis. Je ne vise personne, mais je dis ce que Dieu dit. C'est ça un serviteur du Christ. On ne fait pas de certaines catégories de gens un dada. Dieu ne nous a pas établis pour ça. C'est la remarque m'a été faite par quelqu'un. Il y a déjà quelques temps, il m'a dit, pasteur, vous ne parlez jamais de telle catégorie. J'ai dit, Dieu ne m'a pas établi pour parler de telle catégorie de gens. Mais moi, quand il me donne, je prêche, mais je dis ce que sa parole dit. Vous m'avez compris? Voilà, que Dieu soit béni. Et puis, regardez encore à partir du verset 21. Toujours, en parlant des choses du royaume de Dieu. Il les accueille, mais après, il leur parle. Verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Ça, c'était la loi. Celui qui tuera est passible du jugement, de jugement. Mais moi, je vous dis que quoi? Quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Et que celui qui dira à son frère, raca, c'est pas racailleux, hein? Non. Raca, le Seigneur s'arrête. Raca mérite d'être puni par le Sanhédrin. Sanhédrin, rassemblement politico-religieux qui était très influent et qui était responsable d'amener des jugements dans des situations particulières. Dans l'Ancien Testament, c'était composé de 21 personnes, mais dans la Nouvelle Alliance, c'était 71 personnes. Notable influent. Personnalité respectable. Et qui prononçait des jugements. Et lorsque le Sanhédrin avait prononcé un jugement, aussitôt la sentence tombait. C'est le Sanhédrin qui a fait condamner Jésus. C'est le Sanhédrin qui a fait condamner Étienne. Mais Jésus prend soin de dire, vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis que. Regardez ailleurs, toujours dans la même direction. Verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, quoi? Tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Aïe. Mes frères, on a un problème que nous ne cherchons pas. Parce que la convoitise arrive très vite, de manière subtile. Pourquoi? La convoitise est une arme dans la main de Satan. Je ne cherche pas à convoiter quiconque, mais mon œil, avec l'apport du malin qui va l'utiliser comme un élément qu'il va exploiter, risque de me faire commettre le délit que je viens de lire là. Je cherche rien. Alors qu'est-ce que Jésus veut me faire comprendre? Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre ce matin? Qu'est-ce qu'il nous enseigne à comprendre et à saisir? Il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu pour accomplir la loi. Finalement, l'ensemble des paramètres où à chaque fois nous voyons qu'il est dit, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis, c'est simplement pour nous faire comprendre, car sans moi, vous ne pouvez. Ça veut dire, Jésus m'explique les choses, mais il me donne le moyen de m'en sortir. Vous comprenez pourquoi j'aime Jésus? Il ne me dit pas, Claude, fais pas ça. Et si tu le fais pas, c'est ce qui va t'arriver. Et puis ça, non, il m'enseigne. Il m'explique. Je comprends. Alors parce que je comprends, je bénéficie et j'avance. Oui, parce que si je prends la parole de Jésus à la lettre, je vois les conséquences qui en découlent, j'ai un problème. Je cherche rien. Mais le problème, non seulement il me rattrape, mais rapidement il va dominer sur moi. Mais ça, ce sont des choses que le maître a eu la bonté de me faire comprendre et saisir. Donc vous comprenez pourquoi le frère Claude est heureux avec Jésus. Je suis heureux avec Jésus, je vous le dis. Je suis heureux avec mon Seigneur. Jamais Jésus ne m'a fait un reproche, me dit Claude, tu ne vaux rien. Là, je ne te suis pas. Non, il m'explique les choses. et prends le soin de m'enseigner. Et quand j'ai compris ce que le maître veut que je fasse, alors j'ai dit, Seigneur, maintenant, aide-moi. Et même quand je n'aurai pas fait ce que lui me demandera de faire, j'ai toujours recours à lui pour qu'il puisse me donner le secours à mon escient. Est-ce que Jésus est là ce matin au milieu de nous? Est-ce que Jésus est là ce matin au milieu de nous? Oui, il est là. Il les accueillait. Après, il les enseignait. Donc, je pourrais aller plus loin avec vous dans l'enseignement que Jésus dispense, mais je vais vous amener simplement à la conclusion. La conclusion de l'ensemble de l'enseignement que Jésus dispense se trouve dans Matthieu 7, verset 28. Vous regardez. Matthieu 7, 28. Puisque dans Matthieu, du chapitre 5 jusqu'au chapitre 7, Jésus va donner ce qu'on appelle le serment sur la montagne. Et après, il va parler d'un point des paraboles concernant les mystères du royaume de Dieu. Allez, regardez Jésus avec moi. Chapitre 7, verset 28. Regardez la fin de son enseignement. Alléluia. Après que Jésus, lisez, eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Alléluia. La raison, car il enseignait comme ayant autorité. Mais quoique son enseignement était donné comme ayant autorité, mais elle différait en tout point de ce qu'enseignaient les scribes et les pharisiens. Car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Les scribes, vous les connaissez, les scribes. Ils avaient la responsabilité d'étudier les textes bibliques et d'enseigner ce qu'ils avaient étudié au peuple. Eh bien, les scribes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient ce que Moïse avait dit et ils frappaient à grand coup sur les cœurs, sur les âmes. De sorte que lorsqu'un scribe avait fini de donner un enseignement, non seulement vous vous ressentiez petit, mais la culpabilité grandissait dans votre conscience et dans votre cœur. Tandis que quand Jésus enseigne, il explique, et une fois qu'il a donné cette série d'enseignements, il enseigne et la doctrine qui dégage de l'enseignement que Jésus donne, c'est ce qui fait du bien à mon âme. Parce que Jésus d'abord s'adresse au cœur, il s'adresse à la conscience, il s'adresse à l'esprit, mais il met les choses à l'intérieur. Et si c'est à l'intérieur, le Saint-Esprit arrive et il va vous pousser à pratiquer ce que Jésus vous a dit, que vous avez entendu, que vous avez compris, que vous avez reçu, que vous avez gardé, et il y aura du résultat. Amen. Est-ce que Jésus est là ce matin? Amen. Gloire à Dieu. Donc, il les accueillait, les grandes foules. Deuxièmement, il leur parlait du royaume des cieux. Et puis, troisièmement, Alléluia. Et là, c'est intéressant. Il accueille, il parle du royaume des cieux, et le troisième point, vous avez lu? Alors lisez-le s'il vous plaît, rafraîchissez-moi la mémoire. Je vous entends pas, c'est pas bon, qu'est-ce qui se passe moi? Oui, l'évangile de Luc, le texte initial. Ah bon, vous êtes toujours à Matthieu? Mais oui, revenez à Luc alors, s'il vous plaît. Je pensais que vous suiviez. Vous avez laissé le train passer alors. Mais c'est dans le texte initial que nous sommes. Nous avons fait un petit crochet dans Matthieu pour voir ce que Jésus enseignait concernant le royaume, mais on est dans l'évangile de Luc, n'est-ce pas, chapitre 9, à partir du verset 10. Nous étions déjà au verset 11. Ce que je viens de vous le dire. Il les accueillait, les grandes foules, il leur parlait du royaume de Dieu, et puis après, nous voyons qu'il est mentionné. Pardon? Il guérit aussi Avez-vous lu ce qui est écrit là? Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Alors, quelle est la différence entre ceux qui avaient besoin d'être guéris et ceux qui sont malades? Ah, vous avez vu comment l'écriture fonctionne? Il guérissait aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. C'est pas les malades, mais ceux qui avaient besoin d'être guéris. Parce que moi, j'ai compris que quand le Seigneur parle ainsi, eh bien, je suis obligé de considérer trois cas. Est-ce que vous êtes là ce matin? Eh bien, dans ce que le Seigneur mentionne ici, moi, j'ai compris, le Saint-Esprit m'éclaire, il y a ceux qui sont malades sur le plan psychique. Maladie psychique qui touche l'esprit, qui nécessite que celui qui en est atteint puisse être amené voir un thérapeute qu'on appelle un psy, qui soit psychologue ou psychiatre. Tu veux toujours? Mais oui. Quelqu'un qui souffre dans son esprit, où il s'est produit un dérèglement, il a commencé par le stress qui s'est prolongé par l'angoisse, et qui a donné une porte ouverte à la dépression, enfin, comme quelque chose qui a craqué à l'intérieur, etc. Je n'ai pas les termes qui sont appropriés, mais je comprends que si le Seigneur parle ainsi, ce matin, il y a de ceux qui ont besoin d'être guéris sur le plan psychique. Deuxième catégorie, ce sont ceux qui sont atteints de maladies dans l'âme. Leur âme est malade. Une âme malade va nécessiter qu'on voit une catégorie de thérapeutes qu'on appelle les psychanalystes, qui ont fait des études, qui sont compétents et qui vont nécessiter que le patient va être reçu dans le cabinet adéquat, couché sur un divan, rouge, de préférence, et puis il va subir, de la manière que le thérapeute va prononcer, plusieurs séances. Et à la fin des séances, ou à mi-séance, par rapport à ce qui sera sorti de sa bouche parce que le psychanalyste va le faire parler, il sera même de faire comme une exploration de ce qui a causé la situation qu'il vit. Moi, je veux bien. Par la grâce de Dieu, je n'ai pas eu besoin de consulter de psychanalyste. Mais s'il y avait besoin, pourquoi pas? Peut-être qu'il y a parmi nous ce matin qui ont déjà consulté un psychanalyste ou un psychiatre. C'est pas interdit. Dieu ne vous tient pas rigueur. Parce que le Seigneur Jésus ce matin, qui est expert en toute maladie, après avoir accueilli, il parle du royaume de Dieu et il est capable de guérir ceux qui ont besoin d'être guéris. Peut-être que ce matin, tu as besoin d'être guéri. Et puis la troisième catégorie, ce sont les maladies physiques. Quand tu souffres dans ta chair, le pasteur ne le sait pas. L'ancien non plus. Mais toi, tu sais de quoi tu souffres. La Bible dit, lequel connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est dans l'homme. Mais il est aussi dit que l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et ce matin, le Saint-Esprit a sondé les profondeurs de Dieu pour donner ce message. Voilà pourquoi, pour conclure le service, je vais laisser à Jésus le soin d'accomplir sa parole. Peut-être que tu es un de ceux qui est confronté à un problème sur le plan psychique. Et que dans ton esprit, il se passe des choses que tu ne maîtrises pas. Et ces choses que tu ne maîtrises pas, peut-être, t'ont amené à voir le psychiatre. Et puis, le psychiatre, il t'a donné un traitement qui me sera permis de te dire que je ne te dirai jamais d'arrêter ton traitement. Le psychiatre te l'a donné, tu as reçu l'ordonnance médicale, tu continues ton traitement. Mais ce matin, Jésus est là. Deuxièmement, peut-être que tu es au rang de ceux qui souffrent dans ton âme. Parce que quand je dis ton âme, il y a aussi avec ton âme une relation avec ta conscience. Et quelque chose qui, à l'intérieur, pourrait représenter comme les symptômes d'un embryon de cette maladie moderne qu'on appelle la maladie d'Alzheimer. Tu commences déjà à oublier et il se passe déjà à l'intérieur quelque chose. Ah, peut-être que tu n'en es pas encore tout à fait atteint, mais il y a l'embryon qui est là. Mais ce matin, Jésus est là. Bon, alors si Jésus est là, Jésus est expert en toute maladie. Peut-être que ce matin, tu souffres dans ta chair. Sur le plan physique, tu as besoin d'être secouru par le Seigneur. Que tu as cette pathologie qui est un petit peu moderne, qu'on appelle le diabète. Et le diabète, fort souvent, est accompagné d'une autre pathologie qui s'appelle l'hypertension. Et qui nécessite que ce matin, tu supplies Jésus. Puisque la Bible te dit que Jésus guérissait ceux qui avaient besoin d'être guéris. Seigneur, j'ai besoin que tu me guérisses. Alors tu vas faire une chose devant Jésus. Va te mettre debout à ta place. Allez! Et nous allons prier le Seigneur en laissant le Saint-Esprit maintenant entrer en action. Il les accueillait! Il nous accueille ce matin. Il nous parle du royaume de Dieu. Mais dans la terminaison, il guérit ceux qui avaient besoin d'être guéris.